Le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri. Il était 23h59 hier soir à l'aéroport de Kaboul. Un C-17 de l'US Air Force s'est placé en bout de piste, a pris son élan, puis a décollé à son bord les derniers Marines encore présents en Afghanistan et le personnel de l'ambassade américaine. Le retrait militaire américain s'achève donc avec 24 heures d'avance, beaucoup d'amertume et pas mal de désillusions. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant à Washington.
Oui, la fin d'une guerre de 20 ans qui a vu 4 présidents se succéder à la Maison-Blanche, près de 2500 soldats tués et des milliards de dollars dépensés depuis 2001. Le dernier avion américain a donc décollé une minute avant minuit, heure de Kaboul, avec à son bord l'ambassadeur américain en Afghanistan. Retrait définitif qui respecte la date butoir du 31 août, négociée entre les talibans et Washington. Retrait annoncé non pas par Joe Biden, mais par le général McKenzie. L'évacuation militaire est terminée, mais la mission diplomatique se poursuit pour assurer le départ des citoyens américains et des Afghans éligibles qui veulent partir. Alors au total, les États-Unis ont évacué 123 000 personnes, non plus de 6 000 citoyens américains, mais des milliers d'Afghans qui ont travaillé avec l'armée américaine sont toujours coincés en Afghanistan. Nous n'avons pas pu évacuer tous ceux que nous voulions évacuer, a reconnu le général. C'est la fin d'une opération de retrait périlleuse depuis la prise de Kaboul par les talibans. Il y a 2 semaines, mission marquée par plusieurs images. La foule d'Afghans massée devant l'aéroport s'accroche parfois aux avions pour fuir le pays, ou encore l'attentat de jeudi et les dizaines de personnes tuées par l'État islamique. Joe Biden, quant à lui, s'exprimera tout à l'heure devant la nation pour expliquer sa décision de ne pas rester en Afghanistan au-delà du 31 août.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Alors Washington affirme que les Américains travailleront avec les talibans, je cite, s'ils tiennent leurs engagements.
Et cela signifie notamment la possibilité pour les Afghans et les ressortissants étrangers de pouvoir quitter l'Afghanistan s'ils le souhaitent. Résolution adoptée hier par 13 voix contre 15 à l'ONU, 13 voix contre 2, la proposition de safe zone évoquée par Emmanuel Macron n'a pas été retenue.
À l'instant, le porte-parole des talibans déclare que la défaite américaine est une grande leçon pour d'autres envahisseurs. Le départ américain permet justement aux talibans, Christophe, de mettre la main sur un trésor de guerre.
Héritage d'une présence militaire qui aura duré donc 20 ans, une partie du matériel militaire américain est restée sur place hier et même si le Pentagone affirme avoir détruit une centaine d'avions et de véhicules blindés avant de partir, les talibans vont récupérer plusieurs tonnes d'équipements, Didier François.
C'est ça, une véritable caserne d'Ali Baba. Imaginez, les talibans ont mis la main sur 360 000 fusils d'assaut de type M4, ce qui est énorme. Et pour vous donner une idée, l'armée française, qui est en train de remplacer ces vieux FAMAS, a commandé 120 000 exemplaires d'un modèle équivalent, ce qui est seulement un tiers de ce que les talibans viennent de récupérer gratuitement. À nous, ça va nous coûter 300 millions d'euros et les livraisons vont s'étaler jusqu'en 2028. Et surtout, le butin taliban ne s'arrête pas là. 130 000 pistolets, 65 000 mitrailleuses lourdes, 42 000 pick-up et 8 000 camions, ce qui leur offre une excellente mobilité et une sérieuse puissance de feu. Ajoutez à cela 160 000 postes radio et 16 000 paires de jumelles de vision nocturne, eh bien, ils vont pouvoir combattre la nuit, ce qui finalement est bien plus gênant que les 2 000 blindés légers, les 170 pièces d'artillerie et même les quelques hélicoptères perdus, qui sont certes extrêmement symbolique de l'ampleur de la défaite subie, mais qui finalement auront peu d'impact sur le plan militaire parce que pour le coup, les talibans auront vraiment du mal à maintenir cet équipement en condition opérationnelle.
Didier François.
Des responsables américains nous disent effectivement la liste du matériel est assez impressionnante mais rien de stratégique. Semble-t-il, il ne faudrait pas s'alarmer. Tiens, je vous rappelle aussi que l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin sera la réalisatrice iranienne Abnous Shalmani. Ce départ des Américains d'Afghanistan lui rappelle situation comparable. C'était elle, la fuite avec sa famille d'Iran dans les années 80. Europe 1, il est 7h05. La France maintenant, direction Marseille où l'on prépare le déplacement d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État semble décidé, Christophe, à mettre les moyens pour sortir la ville de la crise.
Du jamais vu, un investissement sans précédent, ça c'est ce qu'expliquent les ministres et les collaborateurs du président. Emmanuel Macron devrait annoncer un grand plan d'investissement de plusieurs milliards d'euros. 3 priorités, l'école, la rénovation urbaine et les transports.
Le président devrait aussi s'emparer du dossier de la sécurité.
Marseille est le théâtre de règlements de comptes sanglants entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue, au moins 14 morts depuis le début de l'année. Ne nous oubliez pas, dit David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale était l'invité de Punchline hier soir sur Europe 1.
pour une enquête de la police judiciaire, c'est-à-dire du guetteur jusqu'à celui qui approvisionne, c'est un an de travail. J'ai dit qu'il y en avait 220. Donc, c'est pas compliqué.
On prend la mesure, hein,
voilà.
Évidemment.
À un moment, il faut les moyens pour faire la guerre. Il faut les hommes, il faut, en droit policier, il faut la procédure. Il faudra aussi y revenir, parce qu'il y a quand même, depuis 30 ans, des réformes de la procédure qui sont pas allées dans le sens de nous aider à faire ces dossiers-là. Et puis, il faut, je dirais, les moyens techniques jusqu'aux armes, puisqu'en face, on a affaire à des gens extrêmement chevronnés. Il y a une loupe énorme sur l'affaire Estival, on en est à 25 affaires criminelles depuis le début de l'été. C'est gigantesque. Ça noie intégralement les services de PJ. 46 depuis le début de l'année. Pour autant, il y a des bonnes périodes. Il y a eu une période où il y avait 2 règlements de compte par mois à Marseille. On était descendu à 1 et on va repasser à 2, voire à 3.
David Lebars, secrétaire général du SCPN. Il était l'invité de Punchline, émission présentée par Laurence Ferrari tous les soirs sur Europe 1 de 18h à 20h.
L'épidémie de Covid maintenant, la Polynésie est face à une véritable flambée. Le nombre de cas et de décès sont en forte augmentation.
Le taux d'incidence dépasse les 3000 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de décès a plus que doublé par rapport à la semaine dernière. Les principales îles de cet archipel sont placées sous confinement strict jusqu'au 6 septembre. Les écoles sont également fermées.
Par ailleurs, Europe 1 vous le révélait dès hier soir, la France va durcir les conditions d'obtention de la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte.
Un projet de loi est en préparation et le ministre de l'Intérieur a profité de son déplacement sur cette île de l'océan Indien pour en dévoiler les grandes lignes. Et désormais, l'un des deux parents devra justifier d'une situation régulière et d'une présence ininterrompue d'au moins un an contre 3 mois auparavant. Mayotte est confrontée en effet à une pression migratoire constante. Et puis l'heure de la retraite a sonné pour le professeur Didier Raoult, l'infectiologue âgé de 69 ans est officiellement à la retraite aujourd'hui. Il va rester encore quelques jours à la tête de l'IHU de Marseille jusqu'au 17 septembre.
Le football, à minuit, ce sera fini. Le marché des transferts refermera ses portes.
On saura alors si Kylian Mbappé quitte le PSG pour le Real Madrid. Aux dernières nouvelles, le joueur resterait parisien et effectuerait donc sa dernière année de contrat à Paris. Un marché des transferts qui fait tourner les têtes et valser les milliards depuis maintenant 10 ans. Oui, les milliards d'euros. C'est la conclusion d'un rapport commandé par la FIFA, Simon Rubin.
Oui, je vous donne un chiffre qui résume ce marché colossal. Sur les 10 dernières années, les transferts internationaux représentent plus de 41 milliards d'euros. Près de 67 000 joueurs ont été transférés en 10 ans entre plus de 8 000 clubs. Aux premières places des pays qui exportent le plus de joueurs, le Brésil, l'Argentine, la Grande-Bretagne et la France. Et de l'autre côté, parmi les plus gros acheteurs, eh bien c'est la domination des pays d'Europe, notamment l'Angleterre. Des joueurs pris notamment lorsqu'ils sont jeunes. La plupart des transferts concernent des joueurs qui ont entre 18 et 23 ans. Autre tendance très forte sur 10 ans, les agents de joueurs prennent de plus en plus de place. Ils sont de plus en plus nombreux et le montant global des commissions d'agents a été multiplié par 6 en 10 ans, confirmant qu'aujourd'hui le football, ce n'est plus qu'une affaire de joueurs et de clubs, mais c'est surtout une histoire d'entourage, de conseillers plus ou moins obscurs que la FIFA a bien du mal à encadrer.
Simon Rubin.
Merci Christophe Lamarre. Dans un instant sur Europe 1, l'édito éco.